Je vais passer maintenant la parole à Marion Navarro.
Alors en fait, je voudrais expliciter dans le temps qui m'est imparti le lien qui existe en fait entre la crise économique actuelle et le creusement des inégalités, alors plus ou moins marqué et plus ou moins récent selon les pays développés, donc lien qui vient d'être évoqué par Philippe Bonneau, et du coup réfléchir à la façon dont l'outil fiscal peut être mis au service de la lutte contre les inégalités. Donc bon, il ne fait aucun doute que la crise économique actuelle est à relier à l'architecture de notre système financier. La bulle immobilière et les conséquences de son éclatement n'auraient pas eu une si grande ampleur si le système avait été structuré différemment. Mais il est important d'avoir en tête le fait que la crise économique trouve aussi son origine dans des faiblesses de l'économie réelle et qui sont notamment à relier au creusement des inégalités. Alors les mécanismes qui relient faiblesse économique et creusement des inégalités sont assez aisés à expliquer et ont été mis en avant de façon très claire dans un article de Jean-Luc Gaffard et Francesco Saracerno en 2009 dans la revue de l'OFCE. Donc en fait, une redistribution des revenus en faveur des ménages les plus riches, donc c'était la redistribution qu'on a pu voir là, ces dernières années, donc qui était particulièrement marquée aux États-Unis. Donc en fait, pèse sur la demande des ménages, et cette baisse de la demande a été compensée, donc ça a été particulièrement aux États-Unis, par un recours à l'endettement très massif des ménages. Et on a eu comme ça une croissance économique qui a été artificiellement soutenue en fait par un endettement, et donc on voit très bien que cette croissance reposait sur des bases fragiles et ne pouvait être durable et devait déboucher sur une crise. Alors le creusement des inégalités, c'est un fait incontestable dont il est vraiment important de prendre la mesure. Donc comme je le disais, il a été particulièrement marqué aux États-Unis, mais on peut le constater dans l'ensemble des pays développés. Donc il trouve son origine principalement dans la très forte croissance des très hauts revenus, alors que les revenus moyens ont stagné. Donc là, si on regarde là sur le graphique, l'évolution de la part du dernier décile dans le total des revenus de 1917 à nos jours, on voit très clairement, après une période assez stable pendant les 30 Glorieuses, une envolée des très hauts revenus depuis la fin des années 70, la fin des années 70. Et donc, comme je le disais, cette hausse n'est pas propre aux États-Unis, mais même si elle a été particulièrement marquée dans ce pays, elle a été observée dans l'ensemble des pays développés. Et on voit très clairement que les hauts revenus, en fait, ont capté une très large partie des gains de productivité, en fait, depuis la fin des années 70. Donc, si on compare maintenant le taux de croissance annuel des revenus au taux de croissance du revenu moyen sur la période 1985-2005, on voit très clairement, là encore, que c'est la croissance des hauts revenus qui a tiré vers le haut le revenu moyen, alors que les revenus les plus faibles ont eux, stagné. Alors, jusqu'à très récemment, la France faisait figure d'exception dans cette évolution globale. Donc là, on le voit très clairement sur le graphique, donc c'est le premier bâton noir. Par contre, depuis 10 ans, il semble que la France prenne le même chemin que les autres pays développés. Alors, on peut le voir aussi sur le graphique, puisqu'on voit que le dernier bâton représente aussi la France, mais de 1995 à 2005. Donc, sur une période plus récente, on voit déjà que la situation a nettement évolué par rapport à, si on prend la période globale 1985-2005. Et on sait que la tendance se poursuit. Donc, Camille Landé a fait un gros travail sur l'évolution des revenus en France et le creusement des inégalités. Et les résultats de ces travaux sont très clairs. On a bel et bien un creusement des inégalités en France depuis 10 ans. Donc pour donner quelques chiffres rapidement, sur la période 1998-2005, le revenu des 0,01% les plus riches a augmenté de 42,6%, contre 4,6% pour les 90% les moins riches. Donc là, on voit bien l'écart d'évolution extrêmement important entre les très hauts revenus et le reste des revenus. Et donc cette hausse des très hauts revenus est en partie liée à la croissance des revenus du patrimoine, mais aussi à la hausse des revenus d'activité des plus riches. Et là, de ce point de vue, c'est vraiment un fait nouveau pour la France. On est en train de rompre avec 30 ans de stabilité dans la hiérarchie des salaires, et donc il faut bien prendre la mesure de ce changement qui est en train de connaître la répartition des revenus en France. On a vraiment une modification assez importante du profil de la répartition, avec cette envolée des hauts salaires et aussi des hauts revenus. Donc bon, la conséquence de cette forte hausse des hauts revenus, de façon assez logique, a été un creusement des inégalités, qui peut être apprécié à travers l'évolution de l'indice de Gini. Donc il y a un indice qui mesure l'évolution de l'inégalité. Et donc là, on voit très clairement sur 10 ans, une hausse très forte de l'indice de Gini, donc que ce soit dans le graphique du haut pour l'ensemble des revenus ou dans le graphique du bas où on n'a que les salaires cette fois, on voit bien que la hausse des inégalités n'est pas liée qu'à une hausse des inégalités au niveau des revenus de patrimoine, mais aussi au niveau du salaire. Et donc, comme je disais, ça, c'est assez nouveau. Et donc, le problème de demande qui est lié à cette croissance des inégalités et la fragilisation donc, de l'économie qui en résulte, donc ce que j'avais évoqué au début, n'est pas un problème conjoncturel auquel on peut répondre simplement par une politique de demande. Il s'agit bien d'un problème structurel donc, auquel il est urgent de s'affronter. Donc, Paul Krugman, dans son dernier ouvrage, expliquait que pour la première fois depuis deux générations, les défauts du côté de la demande devenaient une limitation claire à la prospérité pour de nombreux pays développés. Et donc la question maintenant qui se pose à nous est que faire face à ce creusement des inégalités, que pouvons-nous proposer? Donc il ne s'agit pas bien sûr ici d'analyser l'ensemble des causes qui ont mené à cette hausse des inégalités et de proposer une refonte globale du système économique, mais simplement de voir à travers l'outil fiscal ce qui nous est possible de faire pour lutter contre ces inégalités. Donc, il faut déjà avoir conscience que depuis une trentaine d'années, la plupart des pays développés ont procédé à des réformes fiscales qui ont amoindri la redistribution opérée en faveur des ménages les plus modestes. Donc ces évolutions sont doublement problématiques car elles conduisent à un creusement des inégalités par deux mécanismes distincts. Donc on a un effet mécanique qui est lié simplement au fait que quand la redistribution est plus faible au niveau des revenus primaires. Bon, forcément, in fine, au niveau des revenus disponibles, on a plus d'inégalités. Mais il y a aussi un effet indirect lié au fait qu'une fiscalité qui est moins redistributive, en augmentant en fait le revenu des ménages les plus aisés, accroît aussi leur capacité d'épargne et favorise ainsi l'accumulation de leur patrimoine. Et du coup, augmente mécaniquement les gains potentiels qu'ils pourraient avoir des revenus de ce patrimoine et donc contribue à l'augmentation des inégalités dans la distribution des revenus primaires. D'où l'importance d'avoir un système qui redistributif. Donc, pour montrer cette évolution des systèmes, si on prend le cas des États-Unis sur la période 1960-2004, on voit sur ce graphique l'évolution est très nette. Le taux moyen d'imposition du 0,01% le plus riche a été diminué de moitié sur la période, donc ce n'est pas une évolution anodine. Au sein de l'Union européenne, les réformes fiscales ont été plus tardives, ce qui explique en partie, mais en partie seulement, un creusement moindre des inégalités. Mais si on se concentre sur le cas de la France à présent, l'évolution du système fiscal est quand même assez nette. Donc on peut prendre notamment deux, trois exemples. Donc si on regarde l'évolution du taux marginal sur le revenu pour la dernière tranche, il est de 40% actuellement, il était de 65% en 1986. On a eu une baisse des droits de succession, un allègement de la fiscalité pesant sur les revenus du patrimoine, l'adoption du bouclier fiscal donc à 60% puis à 50%. Donc on a eu comme ça un certain nombre de mesures qui ont évidemment limiter la redistribution opérée par notre système fiscal. Donc la plupart de ces réformes sont assez récentes, donc il est difficile encore d'apprécier l'impact qu'elles vont avoir sur les inégalités, mais il y a fort à craindre évidemment qu'elles vont plutôt contribuer à leur accroissement. Et donc si on s'intéresse maintenant au système fiscal français dans son ensemble, on se rend compte finalement qu'il est assez peu redistributif, contrairement à l'image qui pourrait exister dans l'opinion publique. Donc par exemple là, si on prend le taux d'effort qui est le montant de la taxe payée par les ménages rapporté aux revenus des ménages, donc simplement pour les impôts directs ici, on voit qu'il y a bien progressivité, mais une progressivité assez limitée tout de même. Et si on considère alors là l'ensemble des impôts, donc directs et indirects, et les transferts publics sans contrepartie reçus par les ménages, puisqu'en effet, pour évaluer la redistribution opérée par un système fiscal, il est important de mettre en regard les prélèvements, mais aussi les transferts qui ont été financés par ces prélèvements. Donc, transferts publics sans contrepartie, c'est par exemple le RMI maintenant qui est le RSA. Et on a en fait seulement 5% du PIB qui est transféré des 50% les plus riches vers les 50% les plus pauvres. Ce chiffre est inférieur à celui qu'on peut avoir en Angleterre, en Allemagne ou en Italie. Donc on voit bien que le système français est finalement pas si redistributif que ça. Et on voit que cette redistributivité limitée de notre système fiscal est problématique, premièrement au regard d'un objectif de justice sociale, mais aussi compte tenu du fait que l'existence d'inégalités, comme on l'a vu, fragilise le système économique. Donc alors comment réformer le système fiscal français pour qu'il soit plus redistributif? Donc je me contenterai d'évoquer simplement quelques pistes compte tenu du temps qui me reste. Donc, tout d'abord, il faut avoir conscience que nos choix fiscaux sont limités par l'ouverture de nos économies et donc par la concurrence fiscale qui est liée à cette ouverture. Donc, alors, à quel point nous sommes limités, ça, c'est un débat. Il n'y a pas encore de réponse claire. Il y a des études qui commencent à être faites pour essayer d'apprécier l'importance de l'évasion fiscale. Donc, on sait très clairement que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Après, à quel point on est contraint, là, la question reste encore ouverte. Mais ce qui est certain, c'est que toute réforme fiscale de très grande ampleur, donc qui taxerait de façon lourde les revenus du capital, et les hauts revenus d'une façon générale et le stock de capital, bon, doit faire l'objet d'un accord international. Et donc, si on prend pour la France un accord au niveau de l'Europe, si on veut limiter le jeu de la concurrence fiscale et retrouver finalement notre souveraineté dans le domaine fiscal, bon, la coopération entre pays doit être de mise. Donc bon, ça peut être pour lutter contre les paradis fiscaux, mais aussi pour harmoniser notre fiscalité. Donc ça a été fait au niveau européen pour la TVA, qui est finalement l'impôt qui est le plus harmonisé au niveau de l'Europe. Ça n'est pas du tout le cas, par exemple, pour la taxation des revenus du capital. Or, le capital est une base particulièrement mobile, et ce serait intéressant donc, de travailler à une harmonisation par rapport à la taxation des revenus du capital. Bon, alors actuellement, il est clair que l'Europe ne semble pas s'orienter vers cette voie. Bon, pourtant, pour une réforme qui se voudrait vraiment ambitieuse, ce serait pourtant un échelon pertinent. Bon, donc là, c'est à présent aux politiques de porter cette volonté au niveau européen. Là, c'est plus du ressort des économistes. Bon, en attendant un tel accord, nous ne sommes pas complètement démunis au niveau national. Donc, il y a les pistes qui ont été évoquées par Aurélie Filippetti ou Philippe Bruno. Donc, moi, je me contenterai plus de réfléchir donc à la façon dont sont utilisées les recettes fiscales en fait collectées par l'État notamment. Donc, à défaut de pouvoir taxer de manière plus importante ou de façon satisfaisante du moins les hauts revenus et le capital, on peut déjà beaucoup plus cibler la façon dont sont utilisées les recettes fiscales et donc beaucoup plus cibler les transferts sociaux et les dépenses fiscales. Donc, par exemple, en France, seulement un tiers des prestations familiales sont versées sous condition de ressources, et les niches fiscales qui sont considérées donc comme des dépenses fiscales représentent donc, c'était 34,5 milliards d'euros en 2007, et on sait qu'elles profitent majoritairement aux revenus les plus aisés. Donc, il faut avoir conscience que ce chiffre, ça représente 60% des recettes de l'impôt sur le revenu. Et on estime qu'en 2010, les niches fiscales priveront l'État de 74,88 milliards d'euros. Donc, c'est quand même une somme extrêmement importante. Alors, évidemment, si certaines niches fiscales sont utiles, il est important de faire le tri parce qu'il est très clair qu'un certain nombre d'entre elles n'existent que parce qu'elles répondent à l'intérêt de certains lobbies et pas du tout à l'intérêt général. Donc alors que Martin Hirsch demandait 3 milliards d'euros pour financer le RSA et que ça lui a été refusé, ou que les minima sociaux sont revalorisés du strict minimum chaque année, donc simplement de la hausse de l'inflation, donc on peut se demander voilà, si on ne peut pas opérer un recentrage en fait, des dépenses à la faveur des ménages les moins favorisés. Et donc pour conclure, pour revenir sur la question qui était posée pour cette conférence, donc est-ce que la crise est une occasion pour réformer la fiscalité? Donc je serais tenté de répondre oui, compte tenu du fait que la crise économique actuelle a montré l'importance de la répartition des revenus dans le bon fonctionnement de l'économie, et compte tenu du fait que nos systèmes fiscaux, et en particulier donc celui de la France, qui est le cas qui nous intéresse ici, ne sont pas assez redistributifs, ça appelle à mon sens donc évidemment une réforme fiscale.
Merci. Je vais, plutôt que de parler de la fiscalité locale qui rajouterait encore un élément dans un paysage déjà suffisamment riche, je vais plutôt essayer de résumer brièvement les quelques lignes directrices que j'ai pu percevoir dans les interventions des uns et des autres, de façon à ouvrir un débat avec la salle. Donc, je crois que la première chose qui me semble se dégager de ces différentes interventions, c'est la nécessité de relégitimer le système fiscal français qui est aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons qui ont été évoquées par les uns et les autres, pas légitime et donc difficilement amendable en l'état, et surtout difficilement rentable, si je puis dire, pour l'État, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vraiment augmenter des impôts dès lors que ces impôts sont jugés illégitimes. Et on l'a vu d'une certaine façon avec le débat sur la taxe carbone, puisque au fond, au moment même où on créait cet impôt, il a fallu promettre qu'on allait rendre l'argent, hein, ce qui est quand même quelque chose un tout petit peu embêtant. Hein, parce que si on fait ça pour chacun des impôts qu'on crée, on voit bien qu'on est dans une impasse complète. Hein. Cette question de la légitimité du système fiscal me semble une question absolument centrale, et notamment, et on l'a bien vu aussi dans les différentes interventions, la question de son équité, c'est-à-dire la question de son degré de redistributivité, mais aussi de son équité horizontale entre les différents types de revenus, entre les différentes catégories de revenus, etc. Donc, si je résume un petit peu tout ça, je dirais, au fond, on voit que se dessiner une espèce de consensus sur une fiscalité reposant sur trois grands piliers. Un pilier qui serait un impôt sur le revenu à base large, qui inclurait la CSG et l'impôt sur le revenu actuel, et sans doute aussi les revenus du capital, et pas seulement les revenus du travail, puisque, comme ça a été dit par Philippe Bruno notamment, aujourd'hui le système fiscal français est caractérisé par un impôt ciblé surtout sur les revenus du travail, et au contraire une fiscalité des revenus du capital qui est tout à fait dérogatoire du droit commun et sensiblement différente, en tout cas dans ses principes. Donc ça, ce serait le premier grand pilier. Le deuxième grand pilier serait une fiscalité du patrimoine complètement repensée et mettant davantage l'accent sur les transmissions patrimoniales et sans doute beaucoup moins sur l'ISF ou des instruments de ce genre-là. Et puis un troisième pilier qui serait un pilier, disons, écologique au sens large, à condition justement de le rendre plus lisible, plus légitime, etc. Et je crois que de ce point de vue, alors il y a un débat, évidemment, on voit bien entre d'un côté les gens qui, comme Dominique Bureau, insistent sur l'importance de la fiscalité écologique pure, c'est-à-dire du signal prix. En excluant du coup que ce soit un instrument qui puisse procurer massivement, en tout cas, des recettes. En tout cas, c'est le choix qui a été fait, disons, avec la taxe carbone. Et puis ceux qui pensent que l'introduction d'une fiscalité carbone pourrait au contraire être l'occasion du double dividende, et c'est-à-dire d'aller vers une vraie réforme fiscale qui a été évoquée dans le cas de la Suède, par exemple. Donc ça, je pense que c'est un débat assez important. Et puis alors, pour terminer, donc deux conditions. La première, c'est qui vient d'être évoquée notamment par Marion Navarro, c'est la question de l'insertion de cette réflexion dans un contexte européen et international qui évidemment introduit des contraintes assez nombreuses. Et là, je crois que la question de l'harmonisation fiscale, ou en tout cas de la coordination fiscale en Europe, est très importante. Elle l'est, on le voit bien, pour les patrimoines, pour les hauts revenus, etc., dont la mobilité a été croissante ces dernières années. Elle l'est aussi certainement pour la fiscalité des entreprises, qu'on n'a pas évoqué tellement, mais qui, je le rappelle quand même, ces dernières années a été très considérablement allégée en Europe, et l'est encore cette année avec l'allègement de la taxe professionnelle en France. Et j'indiquerai en passant que l'allègement de la taxe de la fiscalité sur les entreprises en Europe, a été beaucoup, beaucoup plus massive que n'importe où ailleurs dans le monde, et que donc l'idée selon laquelle on allège la fiscalité sur les sociétés parce que on est contraint par la globalisation est un mensonge. C'est pas la globalisation qui nous contraint à alléger la fiscalité sur les sociétés, c'est la concurrence fiscale intra-européenne et rien d'autre. Et donc ça, je crois qu'il faut le dire très fort, parce que c'est très important pour comprendre les enjeux auxquels on est confronté de ce côté-là. Les États-Unis, le Japon et tous les grands pays en dehors de l'Europe ont une fiscalité sur les sociétés qui est plus élevée que la nôtre, et non pas moins, contrairement à ce qu'on raconte souvent. Donc ça, ça me paraît un point important. Et puis alors, pour ouvrir le débat, revenir sur la question qui est donc le titre de cette séance, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire ça dans la crise, et est-ce qu'il convient de le faire dans la crise? Et là, on sent des divergences entre les différents intervenants à cette table, certains prônant la prudence et disant bon, réfléchissons mais attendons la sortie de crise, et d'autres au contraire étant plutôt tentés de dire faisons ça pendant la crise. Alors moi, j'ai envie d'émettre mon point de vue, et puis après je donnerai la parole à la salle. Mon point de vue est le suivant: je crois qu'on a intérêt à faire ça pendant la crise, même si on doit ensuite mettre en œuvre progressivement. C'est-à-dire qu'au fond, la crise me semble une opportunité au moins à deux titres, sinon trois. D'abord, parce que je pense que la crise a fait prendre conscience assez largement dans l'opinion de la nécessité de, à la fois d'avoir un secteur public qui fonctionne. On a bien vu dans la crise que ce sont les pays dans lesquels le secteur public est finalement le plus développé, le plus à même de réagir, qui ont le mieux jusqu'à présent traversé la crise. Je vous rappelle quand même que la France, de ce point de vue-là, s'en sort singulièrement mieux que tous les autres pays européens et que le reste des pays développés, ou de la plupart d'entre eux, et que l'une des raisons, c'est évidemment que le secteur public français a fonctionné assez admirablement comme un amortisseur conjoncturel, en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qui est sans doute un peu... Donc ça relégitime, au fond, l'intervention publique, mais du coup aussi, ça relégitime l'interrogation sur le financement des actions entreprises par le secteur public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été rappelé par Marion Navarro, notamment, c'est le fait que, au fond, le creusement des inégalités apparaît certainement comme un facteur, sinon le principal facteur structurel sous-jacent à cette crise, et que donc si d'une façon ou d'une autre on ne parvient pas rapidement à y apporter des réponses satisfaisantes, on n'a aucune chance de retrouver un dynamisme économique satisfaisant dans les économies développées aujourd'hui. Et le troisième point, c'est celui qui concerne la fiscalité écologique, c'est au fond l'idée que envoyer les bons signaux aujourd'hui, c'est aussi orienter la sortie de crise dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'en fait, si on met en place dès maintenant, et encore une fois, il s'agit surtout de mettre en place les bons signaux avec la bonne lisibilité, si on met en place dès maintenant les bons signaux, on va éviter au fond que la sortie de crise se fasse comme toutes les précédentes dans les directions que l'on ne souhaite pas. C'est-à-dire, par exemple, retomber dans les excès de la consommation d'énergie, etc., etc. Donc, et ça a été très bien dit par Aurélie Filippetti, je crois que la question de la taxe carbone, c'est avant tout, ça a été dit aussi évidemment par Dominique, c'est une question de signal prix, mais c'est une question de signal prix à suffisamment long terme et avec une lisibilité suffisante pour que les choix des entreprises et des ménages soient durablement orientés dans la bonne direction. Et c'est là où je pense que on a un peu raté le coche avec la taxe carbone à la française, parce que on a omis cet aspect-là qui était le plus important. Donc me semble-t-il, en tout cas. Donc voilà, je vais maintenant ouvrir la discussion. Il nous reste un gros quart d'heure, donc on va pouvoir prendre quand même quelques questions. Oui. Si vous voulez bien aussi vous présenter et poser une question brève, dont...
Je ne crois pas que ce soit vrai. Il faut effectivement changer. Simplement, le millefeuille, on craint encore de l'accroître si, effectivement, on rajoute une mesure de type taxe carbone, qu'on dise ensuite qu'il faut la compenser, etc. Je ne pense pas que les Français seraient très choqués par le fait qu'elle ne soit pas compensée, parce que ça va être encore une usine à gaz supplémentaire. On a quand même un instrument qui était assez efficace, qui s'appelle la TVA. Pourquoi pas TVA zéro pour les produits verts, TVA extrêmement élevée, je ne sais pas, pour les véhicules très polluants ou pour des tas de choses. Bref, on a un instrument qui existe. La TVA est sans doute un des meilleurs impôts qui soit, à condition qu'il existe par ailleurs un impôt sur le revenu qui soit fortement progressif et un impôt sur les successions qui soit évidemment beaucoup plus fort, puisque même dans un pays ultra-libéral qu'étaient les États-Unis, il était beaucoup plus fort qu'en France. Donc, impôt sur les successions, d'une part, impôt sur le revenu, d'autre part, et puis taxe sur la valeur ajoutée pour tout le reste, y compris pour les cotisations sociales, dont une partie, effectivement, CSG devrait être regroupée sur les RPP, ok, mais une autre partie devrait être un impôt sur la valeur ajoutée, qui a le gros avantage d'être neutre, soit par rapport au capital ou au travail. Alors que multiples décisions sont chaque fois prises en disant un petit coup, on va favoriser le travail. Alors pour favoriser le travail, on va faire ceci. Après, on dit, ah oui, mais les entreprises, il faut favoriser l'investissement. Alors on va faire un investissement dégressif et pas proportionnel. On va faire des tas d'échappatoires pour échapper à l'investissement dans le capital. Ben, c'est des décisions qui s'annulent complètement. Donc autant prendre un impôt neutre. Neutre. Sur le plan du capital ou du travail, et asseoir les cotisations sociales sur la valeur ajoutée. Et ça aurait aussi le grand avantage, puisque les pays entrant, notamment dans la communauté européenne, eh bien, on met la taxe sur la valeur ajoutée européenne. Alors vous me direz, c'est une manière d'un protectionnisme déguisé, protectionnisme social, puisque si la TVA est plus forte parce qu'on inclut les cotisations sociales dedans, évidemment. Ça. Mais je pense qu'en ces temps où il s'agit de relocaliser la production, c'est exactement, ça va dans le sens écologique, évidemment. Alors, moi, je ne suis pas du tout contre la taxe carbone, au contraire. Je voudrais même qu'elle ne soit pas compensée du tout. Et la manière de la compenser, ça serait d'augmenter l'impôt sur le revenu. Mais il faut tenir aux Français le discours complet, c'est-à-dire, on fait ça, mais indirectement, autrement, on augmente la progressivité de l'impôt. Voilà, la compensation, elle se fait là. Et puis, il faut bien, effectivement, que les recettes fiscales augmentent, si on veut des biens publics. Donc, pourquoi pas à travers la fiscalité verte? Pourquoi pas?
Merci. Je vais peut-être prendre plusieurs questions avant de donner la réponse, parce que sinon, ça va être difficile à gérer.
Oui, à vous écouter, j'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment dans la bonne direction, parce que sur le signal prix, bon, la taxe carbone, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment, on ait pris le bon chemin, si j'en crois les différentes interventions. Sur la question d'une réforme globale, on voit ce qui se passe. Moi, je suis plutôt les questions sur la fiscalité locale et sur la taxe professionnelle. On ne peut pas dire qu'on aille vers une proposition d'impôt simple et forcément très efficace. Je me disais en vous écoutant, où est le problème, en fait, aujourd'hui? Est-ce que c'est les propositions qui sont faites par des gens comme vous qui sont pas écoutés, ou en tout cas, est-ce qu'en termes d'arbitrage politique, il n'y a pas un système à un moment donné, un tamis qui fait que il y a un barrage, ou en tout cas dans la négociation et dans les arbitrages au niveau politique, quelque chose qui ne transparaît pas dans les propositions qui sont faites pour aller vers un système qui se veut plus juste et plus efficace, quoi.
Merci. Une autre question derrière.
Oui, bonjour, Jean-Auguste, consultant ressources humaines formation. J'ai pas bien compris la philosophie du discours de Marion là. Apparemment, les riches, il vaut mieux les garder chez nous pour qu'ils dépensent l'argent chez nous, parce que dans le nord de la France, ils sont tous en Belgique. Nos vedettes sont en Suisse. Les vedettes étrangères sont à Monaco parce qu'il n'y a pas d'accord avec. Les Français ne vont pas à Monaco parce que sinon ils paieraient les impôts. Johnny est en Suisse, Alain Post est en Suisse. Donc ce qui fait que les classes moyennes, 50% des foyers fiscaux ne payent pas d'impôts. Or, c'est ceux-là qui utilisent le plus les services publics. Les riches s'en vont ou utilisent les niches fiscales. Donc c'est la classe du milieu, les classes moyennes, qui sont pressurisées Alors, je sais pas. Moi, bien sûr, l'ISF, ça sert à rien. C'est pareil, ça permet aux gens de partir plus vite à l'étranger. Et par contre, j'ai pas compris la question là de monsieur, les droits de succession. Ça, les gens comprennent pas que s'ils ont une petite maison, s'il n'y a pas d'héritier direct, 60% si c'est un cousin, 60% va à l'État. Pourquoi vous... Non, les successions, il faut qu'il y ait au moins un seuil. Mais les successions, les gens, ils pensent quand ça va tout à 60% à l'État, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas là, l'histoire des successions, il faut taxer les successions, mais avec des seuils. Les gens, par exemple, qui dans l'île de Ré...
Qui paie 60% de droits de succession en France?
Non, mais vous avez parlé des droits de succession.
Oui,
là.
Mais qui, vous me dites 60%, qui paie 60% de droits de succession en France?
Eh bien, quand vous êtes cousin, vous payez...
Non, non. D'abord, c'est un taux marginal. Évidemment, si vous transmettez à un non-parent, mais ça, c'est un autre problème, je suis d'accord avec vous, c'est un problème civil. Qui veut qu'en France, on privilégie les liens du sang? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas un problème fiscal. C'est un problème qui date de la Révolution française.
Pour nous, c'est au fils qu'on paye. Hein.
C'est Napoléon.
Je suis d'accord avec vous. Mais c'est d'abord un problème civil avant d'être un problème fiscal. Nous sommes dans un pays qui, malheureusement, privilégie la transmission par le sang et est un système qui se veut non pas de liberté, mais d'égalité. Hein. Pour une raison très simple, c'est que lorsque les révolutionnaires ont rédigé le code civil, ils avaient le choix entre laisser la liberté de tester ou au contraire contraindre les gens à respecter certaines règles qu'ils ont donc créées, qu'on appelle la quotité disponible et les parts réservataires. Ils ont choisi cette deuxième solution pour une raison très simple, c'est qu'ils voulaient casser les systèmes de primogéniture qui existaient dans l'aristocratie française. Et aujourd'hui... Deux siècles, 1804, donc ça fait plus de deux siècles après, on vit toujours sous ce même régime. Et comme on a cette distinction civile, on a du coup un régime fiscal, je suis d'accord avec vous, qui lui aussi taxe très fortement les donations, enfin les transmissions en dehors des liens du sang. Je trouve ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne trouve pas ça normal du tout, et j'appelle de mes voeux une réforme civile de nos droits de succession. Il y en a eu une en 2001, mais qui a touché à rien du tout. Tous les fondements, en particulier les parts réservataires, n'ont pas du tout, et les quotités disponibles, n'ont pas été touchés. J'ai deux enfants, j'ai envie de transmettre, plutôt qu'à un enfant qui m'embête et je suis poli, de transmettre à mon neveu, je ne peux pas, ou ça me coûte 60%. Vous avez tout à fait raison.
Non, là, je crois que Philippe Bruno a très bien dit les choses, mais juste pour résumer cette histoire-là, je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, la progressivité de l'impôt sur les successions, et d'autre part, la distinction entre la filiation du sang et le reste. Et je crois que si on supprimait justement cette anomalie, on peut dire... En tout cas, on pourrait retrouver un système fiscal sur les successions qui soit plus juste et plus acceptable pour l'ensemble des citoyens et des contribuables. Donc, mais ceci dit, cette question aux États-Unis et dans beaucoup de pays, les droits de succession sont contestés aussi. Est-ce qu'il y a encore une question? Et après, je vais donner la réponse, la parole successivement aux autres, parce que. Sinon, on n'aura pas le temps.
Je m'appelle Hugues Deveau, bonjour. Juste des questions un peu d'actualité par rapport à ces réformes de fiscalité. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur la réforme de la taxe professionnelle? Et moi, ce qui me choque là-dedans, c'est par exemple une entreprise qui achète un robot, finalement, ce n'est pas taxé. Et quelque part, il y a des taxes sociales sur les personnes qui... Est-ce qu'on accélère pas ce mouvement, finalement, d'automatisation, etc.? Première question. Deuxième question... C'est le grand emprunt. Est-ce que ce n'est pas des impôts en plus de demain? Vous avez tous dit l'État est en faillite, quoi, on a entendu ça. Alors, le grand emprunt, est-ce que c'est vraiment une nécessité? Voilà.
Personne n'a dit que l'État était en faillite, hein, quand même. C'est le Premier ministre qui l'a dit.
Non, mais pas en faillite, quand on dit qu'il est capable de vivre 6 mois... Est-ce qu'on ne prépare pas les dettes de nos enfants? Comment vont vivre nos enfants demain? Comment ils financeront tout ça?
Oui, d'accord. Ok, donc je vais donner successivement la parole aux différents intervenants. Ben, on va passer dans le même ordre que le premier tour.
Oui, donc...
Et chacun, s'il vous plaît, sera bref.
Voilà, je vais essayer de prendre la question. Bon, besoin de légitimer le système fiscal, mais il y a aussi besoin de légitimer la réforme fiscale. Et je pense que... Et on ne peut pas faire d'impasse. Moi, je veux souligner là-dessus, c'est-à-dire, vous dites, on devrait pouvoir, effectivement, ne pas compenser, c'est ce qu'il y avait dans le rapport Rocard. Je pense même que c'est ce que pensait le président de la République à la fin juillet. Je crois qu'il ne faut pas faire d'impasse. Clairement, si on a un consensus sur le fait... Alors, et je vais juste insister, c'est-à-dire que si on avait eu un consensus sur l'utilisation de la recette, est-ce qu'il fallait baisser les cotisations sociales employeurs, est-ce qu'il fallait baisser la taxe professionnelle, etc., on pouvait en discuter. Clairement, dans les conférences d'experts qu'il y a eu, il n'y avait aucun consensus des experts sur ce qu'il fallait faire en termes de réforme macroéconomique. Donc, on est obligé d'en tenir compte. Donc, en Suède, il y avait un consensus sur le volet environnemental et son enjeu. Il y avait un consensus sur un type de redéploiement fiscal. Donc là, c'est assez facile. Plutôt que de faire d'un côté une taxe carbone avec la restitution complète et de l'autre une TVA sociale, il est clair qu'il vaut mieux faire une taxe carbone, enfin remplacer de la TVA sociale par la taxe carbone. Tout le monde sera d'accord. Mais il n'y avait pas de consensus là-dessus. Et j'ajoute un point. Et il faut regarder finement les effets redistributifs. C'est-à-dire, si vous regardez ce qu'il y a quand vous combinez les deux... On a parlé des ruraux qui, là, sont compensés particulièrement. Les besoins... Enfin, donc, vous ne pouvez faire de la réforme fiscale que si vous avez une légitimité sur la justice, sur l'équité et sur l'apparence de la justice et de l'équité. Et vous ne vous pouvez vous appuyer que sur des éléments techniques qui font un minimum de consensus entre experts. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu dans le débat sur la taxe carbone, tout ce qui ne faisait pas consensus entre experts, progressivement, s'est évanoui, on ne pouvait pas s'en servir. Donc, je crois que... Donc, je termine. Vous avez un article dans The Economist sur la préparation de Copenhague, et ce qui ressort aujourd'hui, c'est la difficulté de tous les gouvernements qui vont aller à Copenhague sur le fait que leurs opinions publiques sont plus réticentes qu'elles étaient il y a un an, parce qu'elles ont l'impression que c'est le citoyen lambda qui va payer tous les coûts. Et le raisonnement qu'a fait le président de la République sur la taxe carbone, c'est celui-là, c'est qu'il s'est dit, en situation de crise, donc on est complètement dans notre sujet, en situation de crise, on ne peut pas donner l'impression qu'au fond, on va prendre sur le pouvoir d'achat pour faire une réforme même bénéfique, etc. Mais cette chose-là, on l'a dans tous les pays actuellement, dans la préparation de Copenhague, à savoir qu'il fallait qu'il y ait l'apparence qu'en aucun cas, l'argent allait être utilisé pour faire n'importe quoi, et au fond, on allait prendre dans la poche du citoyen au moment où il y avait un problème de pouvoir d'achat. Voilà, je dis juste.
Bon, merci. Maintenant...
Je vais essayer d'être rapide. Sur la taxe carbone... Oui, évidemment. Enfin, moi, je pense que l'histoire de la compensation est une absurdité, mais qu'il fallait faire une aide à la transition énergétique pour les ménages les plus modestes et pour les classes moyennes. Et encore une fois, avec cet objectif qui est d'aider au développement d'un marché de masse, donc à la fois créateur d'emplois, ce qu'on appelle croissance verte, et puis du coup, baisse du prix des produits, des produits verts. Il y avait une question sur l'aspect politique des réformes fiscales et pourquoi parce que pour l'UMP, mais c'est même pas l'UMP, parce que maintenant ils sont extrêmement divisés, mais en tout cas pour le président de la République, il est clair que le bouclier fiscal, ne pas toucher au bouclier fiscal ou faire la réforme qu'il a voulu faire de la taxe professionnelle, ça faisait partie, je dirais, c'est sa Bible, enfin c'est son catéchisme, donc il peut pas remettre ça en cause. Ça serait, il ne resterait plus rien du dogme sarkozyste s'il remettait en cause le bouclier fiscal, et y compris quand dans sa majorité des voix et non des moindres s'élèvent contre la réforme de la taxe professionnelle, contre l'exemption de la CRDS pour les bénéficiaires du bouclier fiscal, comme ça a été le cas à l'Assemblée encore il y a deux semaines. Enfin, il y a de plus en plus de gens, y compris à droite, qui disent qu'on ne peut pas comme ça exempter une partie des concitoyens les plus aisés de la contribution à la solidarité. Mais ça, ils ne bougeront pas là-dessus. C'est pourquoi sur le calendrier, on parlait du calendrier, évidemment, nous n'allons pas, nous, les socialistes, faire la réforme fiscale aujourd'hui. Mais 2012, ça sera une bonne échéance pour débattre de la grande réforme fiscale qu'il faut à la France. Sur les inégalités, évidemment, c'est la question cruciale, la question sociale cruciale, et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait favorable à qu'on repense les droits de succession dans le sens que disait Philippe Bruno tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que les droits de succession, l'héritage, c'est la première des inégalités. enfin, vous n'avez pas le choix de naître là, dans la famille où vous naissez. Donc, naître avec un patrimoine au départ parce que vos parents l'ont accumulé, moi, je n'ai jamais considéré ça comme un droit légitime, personnellement. Et d'ailleurs, au moment de la Révolution, il y avait eu des réflexions là-dessus sur l'héritage ou pas. Enfin, le droit à l'héritage est-il finalement un droit de l'homme? J'en suis pas certaine, moi, personnellement. Mais sur le grand emprunt, l'emprunt d'aujourd'hui, c'est la dette de demain. En plus, l'État emprunte tous les jours sur les marchés, donc il aurait très bien pu continuer à le faire, parce que là, il va emprunter auprès de gens qui pourront lui prêter de l'argent, donc c'est encore les contribuables les plus favorisés qui vont pouvoir prêter à l'État, qui va devoir leur accorder des conditions fiscales avantageuses, et donc, encore une fois, renforcer des avantages pour ceux qui auront déjà le plus.
Merci. En quelques... Philippe, non, il a déjà répondu sur la fiscalisation. Philippe, non, on a vraiment pas le temps.
J'ajouterai peut-être deux choses en ce qui concerne l'héritage. Je n'ai jamais dit que l'héritage était illégitime. Je dis juste une chose, c'est qu'un euro en France, un euro hérité est 2,5 à 3 fois moins taxé qu'un euro gagné par le travail. Donc on est dans un pays où le talent, l'enrichissement par le travail est plus fiscalisé que l'enrichissement par l'héritage. C'est voilà. Tout ce que je dis. Et dans une société libérale, ça ne me semble pas normal. Dans une société conservatrice, oui, bien évidemment. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le bouclier fiscal avait deux, à l'époque, il a été créé pour deux choses. Premièrement, fermer les veines des délocalisations. Il a réussi. Deuxièmement, soi-disant faire revenir ceux qui étaient partis. J'ai jamais cru, ça n'a pas marché. Et troisièmement, chose importante, c'est le syndrome de l'île de Ré, quelqu'un a évoqué tout à l'heure, monsieur. Il se trouve que j'ai été donné une conférence comme celle-ci à l'île de Ré pour rencontrer les gens sur place, au gymnase de Saint-Martin-de-Ré. Ce n'est pas du tout des gentlemen farmers, croyez-moi. Et l'idée, c'était justement de protéger, je le répète, non pas les possédants, mais la propriété privée. C'est pas tout à fait la même chose. On pourra rentrer dans le détail, si vous voulez, par des questions annexes tout à l'heure.
Marion, en une seconde, parce que vraiment, on n'a pas beaucoup de temps.
Non, mais en une seconde, je répondrai juste au monsieur. Enfin, justement, dans mon exposé, justement, ce que je voulais mettre en avant, c'est que on avait une situation problématique, puisque d'un côté, tout nous indiquait, donc à la fois des objectifs de justice sociale, mais aussi pour la bonne santé d'un système économique, d'opérer une plus grande redistribution, et que dans la situation actuelle de concurrence fiscale, il était très dur de taxer dans un pays les personnes aux revenus les plus riches, et que donc, sans accord international, on était un peu confronté à un dilemme, effectivement, de mettre une fiscalité beaucoup plus redistributive et prendre le risque de voir... les personnes les plus fortunées quitter le territoire, ou alors faire peser le poids de la redistribution des classes moyennes vers les classes les plus modestes. Et ça, évidemment, c'est problématique, d'où l'insistance que j'ai faite sur la nécessité d'un accord international et sur le fait qu'on avait quand même des marges de manœuvre au niveau national sur l'aspect réorientation des dépenses, donc pas au niveau des prélèvements, mais sur la façon dont utiliser les recettes fiscales.
Voilà, je vous remercie. Je vais pas, malheureusement, on va être obligé de conclure, donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Je voulais juste remercier d'abord les intervenants et puis répondre à la question sur pourquoi on fait pas des grandes réformes fiscales. Bah, parce qu'on n'écoute pas les experts, hélas. C'est pas faute d'avoir essayé à plusieurs reprises, mais on continue quand même et on désespère pas, vous voyez. On continue à faire des débats et un jour peut-être on finira par y arriver. Merci en tout cas.